RFI, 8h30 ici à Paris, il est 7h30 à Libreville.
RFI Matin.
Actualité africaine avec Sébastien Duhamel.
Et l'attente des résultats désormais au Gabon après la journée de vote d'hier, élection présidentielle qui marque une étape de la transition. Autre transition, autre élection attendue d'ici la fin de l'année en Guinée. Et dans cette perspective, l'opposant Sélude Alain Diallo en exil dénonce ce qu'il voit déjà comme une mascarade électorale en préparation. Une nouvelle arrestation de journalistes au Sénégal, Simon Pierre Faye, rédacteur en chef des chaînes privées Sen TV et Zik FM, inquiété pour diffusion de fausses nouvelles. Un calme relatif revenu hier à Goma, dans l'est de la RDC. Sur place, les milices Wazalendo qui épaulent l'armée congolaise revendiquent une attaque contre la FCM23 la veille. Le 122e Paris-Roubaix qui est attendu aujourd'hui, cette course cycliste mythique et ses pavés de l'enfer. Ce sera la toute première édition pour l'Érythréen Binyam Girmay. Et puis notre dossier du jour, exposition sur les arts visuels au Ghana.
C'était Sébastien, le premier scrutin organisé au Gabon depuis le coup d'État contre Ali Bongo en août 2023.
Élection présidentielle hier, une étape, je vous le disais, de la transition pour laquelle quelques 920 000 électeurs étaient appelés à s'exprimer par une journée de grosse chaleur. Ils ont départagé 8 candidats dans un climat relativement apaisé. C'est ce qui ressort en premier lieu de ce temps de vote. Une journée que notre correspondant Yves-Laurent Goma a suivi pour nous à Libreville.
Centre de vote A, bureau 2. Y a-t-il encore des électeurs ?
Le bureau de Martine Laboubé ferme. Il est 18h.
Les uns après les autres, les bureaux de l'école publique Martine Laboubé, un quartier proche du centre-ville, ont fermé entre 18h et 18h30. À l'intérieur, le dépouillement a rapidement démarré.
Brice Clotaire Oligui Nguema, Alain-Claude Villévisé.
Depuis les fenêtres où ils sont autorisés de suivre les opérations, ces citoyens observent et notent les résultats au fur et à mesure.
Je suis en train de noter le nombre d'inscrits, les votants et les bulletins, bureau par bureau.
Tu ne veux rien rater?
Rien du tout.
C'est la première fois, je n'avais jamais accepté d'assister à ce genre de choses. Et ça fait longtemps que j'ai voté, mon dernier vote est en 2009.
Je suis déçu parce que les deux principaux candidats incarnent la continuité.
Dans la soirée, la télévision nationale a organisé une nuit électorale au cours de laquelle les résultats de tout le pays et même de l'étranger ont été égrenés. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Et après ce dépouillement, les premiers chiffres devraient tomber assez rapidement.
On les attend en effet dès la mi-journée, à en croire le ministère de l'Intérieur. On attend également le bilan complet des observateurs qui étaient présents, celui du ROC entre autres, le réseau des observateurs citoyens issus de la société civile soutenu par le PNUD qui avait déployé plus de 500 observateurs à travers le pays. Ils évoquent des incidents mineurs seulement, réglés sans difficulté. Ils saluent en tout cas la sérénité globale de ce scrutin.
Comme un air de pré-campagne électorale. Un air de pré-campagne électorale en Guinée.
Oui, un air de pré-campagne en Guinée avec une nouvelle marche de la paix qui a été organisée par les autorités de la transition en soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya à la présidentielle qui est annoncée pour la fin de l'année. Après Cancan et Kindia en février, marche organisée hier à Boké en Guinée-Maritime et cela même si Mamadi Doumbouya n'a toujours pas annoncé officiellement s'il sera candidat. Mais dans le même temps, une autre voix s'exprimait, elle, depuis Dakar, la capitale sénégalaise où elle s'est exilée, celle de l'opposant Sélude Alain Diallo, le président de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Il a tenu un discours offensif en visioconférence. S'exprimant à ses militants, il a notamment dénoncé l'action des militaires au pouvoir et la mascarade électorale qu'il serait en train de préparer, selon lui. Écoutez Sélude Alain Diallo.
Nous avons soutenu et fortement leurs militaires lorsqu'ils ont pris le pouvoir. N'ont-ils pas dit qu'ils allaient mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens, et qu'ils allaient organiser avec diligence le retour à l'ordre constitutionnel en remettant le pouvoir à celui que le peuple aura choisi. Combien de gens ont été abattus parce qu'ils tentaient d'exercer un droit fondamental, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Il y a plus de 60 jeunes qui ont été abattus. Où sont aujourd'hui Fonike Mangé, Bill Loba, Marwan Camara, Sadou Simaga? Aujourd'hui, nul d'entre nous ne sait si ces messieurs sont vivants ou morts. Il faut vite finir la transition en légitimant Doumbouya par une mascarade électorale organisée par l'OMATD et les préfets avec le soutien des présidents des délégations spéciales nommés en raison de leur adhésion à l'idée que Mamadi, c'est l'homme providentiel et qu'il faut le maintenir au pouvoir.
À un peu plus de 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire maintenant, un grand meeting de Laurent Gbagbo hier à Dabou, à une 50aine de kilomètres à l'ouest de la capitale économique Abidjan.
Devant des milliers de partisans, Laurent Gbagbo a notamment réaffirmé le retrait de son parti, le PPACI, de la commission électorale indépendante, la CEI, qui est jugée inféodée au pouvoir par le PPACI. Et notons ici que le PDCI de Tidjane Thiam a pris la même décision. Le PDCI qui était d'ailleurs représenté hier au meeting de Laurent Gbagbo.
Sébastien, un nouveau journaliste placé en garde à vue au Sénégal.
Il s'agit de Simon-Pierre Fay, rédacteur en chef des chaînes privées Seine TV et Zik FM. Arrêté jeudi, il devrait être présenté à un juge demain, lundi. Il est inquiété, Simon-Pierre Fay, pour diffusion de fausses nouvelles après la reprise dans ses médias d'une information faisant état d'une supposée convocation du Premier ministre sénégalais par le président ivoirien Alassane Ouattara. Mais réaction des organisations du secteur, elles réclament sa libération. À l'image de la Fédération des acteurs et de la communication du Sénégal et son secrétaire général, Bakary Seydi.
Ça a été une grande surprise pour nous, hein, d'autant plus que Simon Fay fait partie d'un journaliste de référence au Sénégal. Non seulement il est connu pour son professionnalisme, il est connu pour sa probité morale, mais également c'est un journaliste très à cheval sur les règles d'éthique et de déontologie. Déjà, dans un premier temps, nous on pense que un simple communiqué des services de la communication de la primature, elle suffit pour nous mettre un terme à ce débat déjà. Parce qu'il n'est pas l'auteur de l'article en question. On lui a prêté le fait de reprendre un article déjà publié et diffusé par d'autres médias. On ne peut pas considérer ça comme un acte isolé. Pour nous, tout cela participe d'une stratégie de bras de fer engagée par l'État avec les acteurs des médias. Et ça doit cesser. Parce qu'on dit souvent que Charles Echaudé craint l'eau froide. Ça veut dire que tout ce qu'on a combattu avec le régime de Macky Sall, c'est comme si le monstre qu'on avait combattu est en train de revenir de plus belle avec plus de force sous de nouveaux habits. Donc il est grand temps de mettre un terme à ce bras de fer entre l'État et les acteurs des médias.
La réaction de Bakary Seydi à la tête de la Fédération des acteurs et de la communication du Sénégal.
Un incendie qui s'est déclaré hier après-midi à la présidence de Sierra Leone à Freetown a été maîtrisé dans la soirée sans faire de victimes. Et puis le calme manifestement revenu hier à Goma.
Oui, la capitale du Nord Kivu dans l'est de la RDC qui fut la veille vendredi le théâtre de tirs dans l'ouest de la ville. Les autorités installées par l'AFC M23 qui contrôle Goma depuis janvier ont affirmé avoir repoussé une attaque. Et cette action a finalement été revendiquée par le groupe CMC FDP. Il s'agit en fait d'une branche des milices Wazalendo qui épaule l'armée congolaise sur le terrain. Comment interpréter cette attaque et cette situation aujourd'hui? Eh bien, selon Onesfor Sematumba, qui est analyste Grand Lac à l'International Crisis Group, il faut y voir une tentative de harcèlement et un message adressé à l'AFC M23.
On assiste à une sorte de stratégie du harcèlement qui n'a pas commencé à Goma. Cela a commencé au sud Kivu. On a vu beaucoup d'attaques sur des positions M23 ou sur des villages de la part de cette nébuleuse qui s'appelle Wazalendo. Et je ne dirais pas qu'il y a un objectif stratégique. C'est vraiment une communication envers le M23 en disant « Nous avons notre capacité de nuisance et donc il faut compter avec nous ». Ça, c'est un message clair. Donc, le refus de disparaître, mais c'est aussi une communication envers les autorités nationales de Kinshasa. C'est un appel du pied de façon à dire, bon, écoutez, nous sommes là, nous avons besoin d'appui pour continuer à être efficaces. Nous avons fait ça et ça et ça, mais si nous étions mieux outillés, on ferait plus. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la propagande, mais ça y ressemble beaucoup.
Voilà les mots de Onesfor Sematumba, analyste à l'International Crisis Group. À l'heure du réchauffement des relations entre la France et l'Algérie, Alger fait part de sa vive protestation face à la détention d'un agent consulaire algérien en France. Un agent qui a été mis en examen vendredi avec 2 autres personnes par la justice française, accusé d'implication dans l'enlèvement fin avril de l'influenceur algérien Amir Boukors. Une affaire inadmissible selon le ministère algérien des Affaires étrangères. Il affirme qu'il ne laissera pas passer cette situation sans conséquences. Et pendant ce temps, le ministre français de l'Intérieur est en déplacement lui au Maroc. Bruno Retailleau évoque notamment les questions migratoires avec les autorités marocaines.
Du sport dans ce journal et cette course cycliste mythique, ces célèbres pavés. C'est la 122e édition aujourd'hui de Paris-Roubaix.
259 kilomètres, dont 55 sur ces fameux pavés. Le double tenant du titre, le néerlandais Mathieu Van Der Poel, tentera de conserver sa victoire, mais le champion du monde, Tadej Pogacar, aimerait bien lui ravir après sa première place mars l'an passé sur le Tour de France. Sur les routes également aujourd'hui, il y aura l'Érythréen Binyam Girmay. Il a annoncé tardivement sa participation, il y a une dizaine de jours seulement. Et ce sera son tout premier Paris-Roubaix, une course qu'il aime déjà, nous explique-t-il.
J'aime cette course et je pense que c'est le bon moment pour m'y tester. Je suis bien préparé, j'ai passé la saison des classiques sans chute, sans problème. Je suis d'attaque, donc avec l'équipe, on s'est dit, allez, pourquoi pas, c'est une bonne expérience. J'ai reconnu les pavés et je me suis senti à l'aise. Mais l'entraînement et la course, bien sûr, c'est complètement différent. Au moins, j'ai repéré les passages importants, les passages dangereux aussi. Donc je vais essayer de trouver le bon tempo. On verra bien.
Voilà, Binyam Girmay avant Paris-Roubaix aujourd'hui. En France également, le marathon de Paris se court aujourd'hui, dimanche. Quelques 55 000 engagés, dont une certaine Tirunesh Dibaba, triple championne olympique sur piste à 39 ans. L'Éthiopienne revient après plus de 6 ans d'absence.
Et on est parti depuis 40 minutes déjà. Le dossier de ce journal, Sébastien, nous mène au Ghana, où pendant 2 semaines, une exposition met en valeur les artistes visuels émergents du pays.
Organisée par le fonds de dotation français Ellipse Art Project, dans le cadre d'un prix annuel, l'événement se tient jusqu'au 27 avril à Accra. Il se concentre autour de 5 jeunes peintres, photographes ou sculpteurs qui sont spécialisés en matériaux de récupération, avec pour beaucoup un point commun, c'est-à-dire un engagement profond pour la défense de l'environnement. Victor Cariou a assisté pour nous au vernissage.
Sur le cliché, 2 enfants, regard fixe vers l'objectif, se baignent dans une couleur rouge sang. Cette photographie, exposée au fond de la galerie d'art Mix Hub à Accra, est l'œuvre de Reginald Boateng, artiste ghanéen de 25 ans.
J'ai choisi la couleur rouge pour représenter le danger, décrire les effets du Galamsey.
De quelques rivières polluées, l'orpaillage illégal a fini par contaminer la majorité des réserves d'eau du Ghana. Un véritable effet papillon, le thème cette année du prix Ellipse. Pour Reginald Boateng, l'art peut justement servir à freiner cette propagation.
Ce sujet a été passé sous silence. Nous, en tant qu'artistes, nous avons une voix pour prendre la défense de l'environnement, des Ghanéens, des enfants.
Parler à ses compatriotes, mais aussi interpeller le monde entier. Voici ce que vise Emmanuel Agré Tiekou. Il expose ici ses œuvres, des installations à base de vêtements usagés qui déferlent au Ghana.
La fast fashion est un sujet mondial. Tout le monde y est relié d'une certaine manière. Ce qu'un individu peut ressentir à Accra, au Ghana, peut être transmis à d'autres individus vivant à Paris ou à New York.
Le gagnant du prix pourra, lui, transmettre son message à Paris en octobre lors de la foire internationale ACA, also known as Africa. Victor Cariou, Accra, RFI.
Un prix annuel qui existe depuis 5 ans maintenant et qui reçoit de plus en plus de candidatures, même si la scène émergente ouest-africaine peine toujours à être reconnue à l'international. C'est en tout cas ce qu'a constaté Victoria Jonas, directrice du fonds de dotation français Ellipse Art Project, qui est créatrice de l'événement.
On voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives, on voit sur des événements, sur la scène internationale, de plus en plus d'artistes d'Afrique de l'Ouest représentés, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Dans les pays qu'on a pu faire jusqu'ici, dans le cadre du prix, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'initiatives privées, mais qui restent, je pense, assez timides, bien qu'il y ait beaucoup de personnes, même de leur propre chef, qui essayent vraiment de soutenir les scènes émergentes, et je pense que c'est même une petite problématique sur le plan international, c'est qu'on ne donne pas assez de visibilité à des artistes ultra émergents, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers le prix. C'est des artistes voilà, qu'on n'a généralement jamais exposés ou avec très peu de visibilité. Et voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de leur donner un max d'opportunités, de mettre en valeur leur travail, leur pratique, et de présenter, que ce soit localement ou même en Europe, sur la scène internationale, leur travail.
Victoria Jonas qui referme notre dossier au Ghana.
Merci, c'était le journal de Sébastien Duhamel. Il est 7h44 à Libreville.